Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Salut Philippe Vincent. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la foulée de ce que tu viens de faire. J'écoutais ton invité parler de délibération discrète et de décret à adopter en catimini. On est peut-être pas loin de notre sujet.
De quoi on parle? De ces documents secrets?
Ben, documents secrets qui ponctuent beaucoup l'actualité. On
Mike
parle
Pence?
Oui, c'est peut-être parce que notre actualité locale est pauvre qu'on s'intéresse tellement à ce qui se passe chez nos amis américains. Ou quelqu'un va dire merci les États-Unis pour cette incessante actualité qui nous est donnée. Tu l'as dit, on a appris cette semaine que l'ancien vice-président M. Pence avait lui aussi trouvé dans ses cartons, dans le sous-sol du bungalow en Indiana, des dossiers confidentiels qui auraient dû être sécurisés et surtout jamais être en circulation après que lui ait servi à la Maison-Blanche. Là, on pourra évidemment argumenter qu'il soit confidentiel, secret, top secret. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Moi, je pense que ça masque l'essentiel, la catégorie de secret qui est attaché à ces documents. Parce que la bonne question, c'est qu'est-ce qui est secret? Qu'est-ce qui doit être caché? Puis ces catégories aussi, en ce moment, sont beaucoup mis de l'avant parce qu'on veut établir une hiérarchie que je comprends dans la faute entre celle de M. Trump et tous les autres qui semblent trouver des documents en faisant le ménage de leurs archives. Donc, Mike Pence, ça, c'était avant-hier. M. Biden, le président depuis quelques semaines, à sa maison, comme à son bureau. Puis je serais pas surpris que Barack Obama va peut-être en découvrir
qu'on va
l'apprendre. Parce que c'est à peu près normal.
C'est impossible. Il est trop, il est parfait,
exact.
Barack.
Il est parfait. Ben, justement, s'il est, il viendra lui-même avec ses petits documents entre les mains pour dire piteusement qu'il en a trouvé en faisant le ménage ou sinon quelques-uns de ses amis qui travaillent pour lui. Politiquement, évidemment, les documents qui ont été trouvés chez le président Biden sont les plus embêtants d'entre tous, puis je mets à part évidemment M. Trump parce qu'ils viennent justement de le mettre, lui, le président, sur la défensive. Alors qu'un nouveau cycle politique s'amorce en vue des élections de 2024, il n'y a jamais de fin aux élections aux États-Unis. Il y a un procureur qui a même été nommé pour faire la lumière. On en a glissé un mot la semaine dernière. Alors même si tout était nickel au bout de l'exercice fait par ce procureur, il va être évidemment plus difficile de garder l'ancien président Trump dans les câbles avec l'affaire des documents qui avaient été trouvés à Mar-a-Lago l'été dernier suite au raid du FBI. Alors surtout, pour ceux qui rêvaient d'envoyer l'ancien président Trump en prison en vertu de l'espionnage acte, ça devient tout ça extrêmement risqué parce que souvent il est invoqué cet espionnage acte qui nous ramène à la Première Guerre mondiale, si ma mémoire est bonne. Si c'est interprété à la lettre, être en possession d'un document confidentiel, qu'il soit confidentiel, secret, top secret, c'est un crime très sérieux, même si on peut faire la démonstration qu'il n'y avait aucune intention maligne. Si on peut la faire parfaitement, stricto sensu, il n'y a pas de circonstances atténuantes si on invoque cet espionnage acte. En fait, en vertu de ça, je pense même que tous les journalistes qui se sont au fil des années retrouvés, par exemple, avec des documents secrets du Pentagone, de la CIA ou du département de l'éducation, en fait, un document secret, pourrait théoriquement être traîné devant les tribunaux pour espionnage. Et ce que ça soulève, c'est la maladie du secret qui est le problème. Aux États-Unis, comme partout dans nos grandes démocraties modernes, le Canada, le Québec font pas exception, même si, tu me diras, on fait pas la chasse aux anciens premiers ministres qui auraient gardé dans leur garde-robe, eux aussi, des dossiers secrets. Mais la culture dominante, une culture de secret, tu as travaillé à Ottawa, j'imagine que tu te rappelles de ça, hein?
Oui, je me souviens de mon passage là-bas, oui.
Mais aussi de ce que les administrations en général...
Tout est sous le couvert maintenant du secret, puis de la loi à l'information, c'est une loi pour protéger, en fait, les pouvoirs publics de t'en donner de l'information, protéger les fonctionnaires. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est de voir qu'est-ce qui est secret d'État, qu'est-ce qui est confidentiel, puis qu'est-ce qui est transparent. Là. T'sais, est-ce qu'une erreur ou est-ce que le fait de garder les documents, puis est-ce que c'est vraiment ça le problème ou faudrait plus parler de pourquoi c'est confidentiel ces documents-là, sont-ils vraiment? Là?
T'as pas tort en disant que cette loi d'accès à l'information qui devrait théoriquement servir le citoyen, les journalistes, mais tout le monde, hein, on devrait tous avoir le droit de savoir ce qui se passe et comment on est administré, sert aussi beaucoup à protéger les grandes administrations, nos gouvernements, qui théoriquement elles, les administrations, sont au service des citoyens, mais finissent toujours par servir leurs propres intérêts de système. Redouter toute forme d'imputabilité, le secret, la culture du secret, c'est le maître mot, c'est la norme. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir, quand on est citoyen, ce qui se passe de l'autre bord du rideau? Je te disais à la blague il n'y a pas longtemps que le papier de toilette aux États-Unis dans les grands ministères finit par être marqué top secret. C'est probablement pour ça que des Edward Norton ou des Julian Assange ont engendré de telles passions hystériques. Puis je pense que le mot se qualifie des deux bords de l'équation politique, parce que s'il y a unanimité, s'il y a une possibilité de travailler main dans la main quand on est républicain et démocrate, c'est pour faire en sorte de garder entre nous justement les petits, les grands secrets de l'État. On donne jamais le secret de la recette aux citoyens. Quand on espionne, par exemple, nos communications, il faut jamais croire que d'abus, c'est pour notre bien à nous. John Brennan, qui était l'ancien patron de la CIA, avait été pris d'ailleurs en flagrant délit de mentir au Congrès quand il avait dit que jamais son agence avait espionné des employés du Sénat, ceux-là même qui étaient chargés, qui sont chargés de surveiller le travail des services de renseignement au nom des citoyens. Puis il y a une citation que j'aime beaucoup, que je garde toujours près de moi, qui est d'un légendaire critique de théâtre, mais un observateur de la société redoutable. Il s'appelait Brooke Atkinson, travaillait pour le New York Times. Il avait dit en anglais: bureaucracies are designed to perform public business, but as soon as a bureaucracy is established, it develops an autonomous spiritual life and comes to regard the public as its enemy. Donc, les administrations qui sont théoriquement au service des citoyens finissent par développer leur propre vie spirituelle et considérer le public comme son ennemi.
Non, mais c'est ça, le système qui a mané se met à se protéger lui-même. Là. Tu sais, des fois, on dit, ah, c'est de la faute à qui? Ah, faute à personne. C'est la faute au système. Mm-hmm. Fait qu'on se met des... On parle de stratégie pour s'assurer que personne prend vraiment de décision. Fait que comme ça, il y a personne pour qui il peut vraiment y avoir de bouc émissaire, puis nous, on se protège, puis c'est jamais de notre faute. Là. Puis on veut en créer plus, des bureaucraties. Là. Christian Dubé va en faire, là, avec Santé Québec, là, une autre belle couche, là.
Exact. Et ce sont des couches qui rendent toujours moins lisible ce qui se passe. La question du secret sera, je pense aussi, ça nous ramène à des enjeux plus locaux. Cette question du secret sera très certainement évoquée quand il va être temps de faire la lumière justement sur les circonstances entourant les contrats donnés aux géants du conseil McKinsey. Mmh. Il y a des dizaines de millions de dollars, tu le sais, en contrats qui ont été donnés pour appuyer nos gouvernements. On pourrait parler de bretelles en plus de la ceinture que devrait être la fonction publique. Donc, des contrats distribués à vitesse grand V et beaucoup pendant la pandémie. McKinsey avait déjà des contrats ou des liens avec le gouvernement fédéral, peut-être à Québec aussi avant la pandémie, mais c'est clair, ça a été un accélérateur. Puis l'empreinte du géant de la consultation, on la retrouve à Québec aussi, à Ottawa, mais dans plusieurs administrations européennes.
Oui.
La France, je pense que déjà au printemps dernier, on en parlait beaucoup, hein, parce que la France a eu son petit scandale pendant les présidentielles.
Un petit milliard.
L'affaire est morte au feuilleton. Exact. Beaucoup, beaucoup d'argent donné à McKinsey, aussi dans le contexte de la pandémie. Parce que McKinsey est probablement en conflit d'intérêts, ou en tout cas, à tout le moins, en apparence de conflit d'intérêts pour avoir conseillé à la fois les pouvoirs publics et des entreprises qui sont susceptibles d'avoir des services à vendre. Chose certaine, on sait qu'elle l'a déjà fait dans le passé, McKinsey en conseillant à la fois de grandes entreprises et des agences fédérales américaines chargées de les réglementer. Donc, dans le passé, c'est arrivé. McKinsey, est-ce que c'est nécessaire de le préciser? Raffole évoluer toujours sous les écrans radars des médias ou de l'attention citoyenne. La multinationale est présente dans des dizaines de pays au moins dans le monde, s'assure de maintenir une espèce de va-et-vient productif entre ses suites exécutives et la fonction publique à Ottawa, mais ailleurs dans le monde aussi. C'est dans le monde de la défense, on parle souvent de la politique des portes tournantes, hein, qui permet de bien lubrifier la mécanique efficace des affaires. Tu passes de la fonction publique au monde des affaires, puis tu peux repartir des affaires pour aller dans la fonction publique. C'est pas unique à McKinsey.
Non, mais ils aiment ça, le McKinsey, d'avoir leur alumni dans les gouvernements, puis là, connaît quelqu'un, fait que là, viens travailler ici, on va te donner un contrat.
Exact.
Sans appel d'offres. Puis là, à un moment donné, ben là, McKinsey, on fait des appels d'offres juste pour eux autres, fait que là, on n'en fait même plus d'appels d'offres parce qu'ils sont tellement bons.
Ou tu fais un appel d'offres il est tellement dans la description de ce que tu recherches pointu.
Exact,
qu'il n'y a finalement qu'une seule entreprise capable. Nous cherchons du conseil qui pourrait nous être donné ou vendu par une entreprise présente dans 59 pays et ayant dans le monde 16 844 employés. Là, tu dis, OK, ça correspond à quoi? McKinsey, donc, est-ce qu'il faut y voir un complot? Certainement pas. Est-ce qu'on peut voir et on pourra avoir rapidement accès aux détails de ce qui a été négocié? Je le souhaite, on peut le souhaiter. On souhaite aussi qu'après quelques années, la très grande majorité des documents qui sont confidentiels soient déclassifiés aux États-Unis, au Canada, au Québec. Ça serait la moindre des choses, parce que je pense qu'il est tout à fait normal de ne pas pouvoir partager toute l'information en temps réel quand on est aux manettes, quand on gouverne. Le monde, on s'entend, n'est pas bienveillant. Il y a de nos gouvernements qui font des guerres. Il y a toutes sortes de raisons pour garder près de la poitrine ses cartes quand on est dans l'action pendant quelques semaines, pendant quelques mois. C'est compréhensible. Mais avec un peu de distance, je pense qu'il y a peu ou pas beaucoup de nos administrations qui devraient craindre de partager avec les citoyens justement le travail qu'ils ont fait, leur délibération, le type de relation qu'ils ont eu avec des contracteurs. Donc, rien à craindre, à moins, bien entendu, d'avoir quelque chose à craindre. Et c'est là que les questions intéressantes commencent à se poser.
Je sais pas, est-ce qu'on va savoir ce qui se passe avec McKinsey au Canada? Je suis sincèrement très curieux de comprendre ce qu'ils ont fait.
Un peu dubitatif aussi.
Ouais. Non, mais il y a quelqu'un qui écrivait récemment que je vague connaissance, qui travaille dans ce genre de firme-là, qui dit oh, les gens comprennent pas à quoi on sert, puis ces firmes de conseils qui viennent donner des conseils sur la gestion. Puis j'ai dit, c'est vrai peut-être qu'on comprend pas exactement ce que vous faites, mais aidez-nous, dites-le-nous, montrez-nous les résultats, parce que c'est ça ultimement le problème, là.
Et il y a, je ne veux pas idéaliser la fonction publique ou la bureaucratie, parce qu'on le dit, elle se protège, et elle se protège des fois peut-être justement parce qu'elle n'est pas parfaitement compétente, mais quand tu engages systématiquement des firmes de conseil extérieur pour gérer des crises, c'est comme aussi l'aveu d'impuissance de ta propre fonction publique qui serait pas capable de faire le boulot, alors que ponctuellement, pour des choses qui sortent de l'entendement de tes fonctionnaires, tu fasses appel à des gens qui ont une expertise extrêmement pointue, soit. Quand tu donnes une partie de la gestion de ton quotidien, de ton ordinaire, à des gens qui sont imputables devant personne, on perd de manche.
Ouais. Après ça, c'est quoi qu'ils font? Est-ce qu'ils viennent gérer quelque chose? Est-ce qu'ils viennent apprendre à des fonctionnaires à gérer? Puis est-ce que la fonction publique est encore capable de gérer? On en a parlé là, de cette faille du système.
C'est une vraie question.
T'sais, je pense au passeport. Là, ça a pris un an à régler le dossier. Puis j'ai peur que cet été, ça reparte en couille, comme on dit en France. C'est pas fait, là, c'est pas réglé. Là.
C'est pas fait. Et ce qui est absolument insupportable dans ça, au-delà de l'incapacité à répondre à l'urgence, c'est de pas avoir été capable de l'anticiper. Normalement, une fonction publique, et particulièrement au plus haut niveau, on parle d'affaires mondiales. En fait, l'ancien ministre des Affaires étrangères, je pense qu'on parle d'affaires mondiales Canada. C'est théoriquement un des repères de talent dans l'administration, dans la haute fonction publique. Si tu dis, il y a le ministère du premier ministre, le conseil privé, il y a les finances, puis il y a les affaires étrangères, où tu retrouves en général la crème de la crème. Puis sincèrement, pour avoir aussi fréquenté de ces gens-là à Ottawa, comme à Québec...
Mais à une époque, c'était vu...
T'es jeune pour dire à une époque, Philippe Vincent,
Non, mais ça fait quasiment... Non, mais je pense à ça, là. Tu sais, je me dis, moi, quand j'étais jeune, tu sais, mettons, les affaires étrangères, là, c'était prestigieux, là. Puis le Canada dans le monde, là, avait une place de choix, là. Puis on était un pays...
Mais... Il y avait vraiment du talent. Tu pouvais être ironique, mais il y avait des gens...
Non, c'est pas ironique du tout. Là. Il n'y a aucune ironie.
Je veux dire, tu aurais pu être ironique à ce moment-là puis dire, ouais, c'est la fonction publique. Mais dans les faits, il y avait vraiment... Puis je ne veux surtout pas dire qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Ça peut pas. Ça sera encore une fois des raccourcis démagogiques. Je reviens à l'exemple. Tu donnais des passeports. On n'est pas dans le détail, mais de pas avoir anticipé, je sais pas si on peut parler de faute grave, mais en tout cas, ça donne à penser qu'il y a quelqu'un qui dormait sa Switch.
Plus qu'une personne. Mais bon, on a coupé là-dedans, puis on a coupé dans la fonction publique, puis là, on fait un gros système qui se nourrit tout seul pour rendre des gens heureux à qui on offre la télémédecine bientôt, parce que le système de santé non plus fonctionne pas, mais au moins, il faut que nos fonctionnaires puissent avoir accès, eux, à des soins que la population n'a pas le droit d'avoir. Stéphane?
C'est comme le CAA sur la route. Ils auront leur système alternatif. Je ne dis pas que CAA est totalement alternatif, mais ça te permet d'être dépanné en cas de problème et de continuer à offrir de bons services ou pas à la population. Mais en attendant, toi, tu ne restes pas sur le bas côté.
C'est ça. Au moins. Les chanceux, avec notre argent. Alors que nous, les citoyens, ben.
Je trouve qu'on est en train de glisser dans un dangereux populisme.
Je pense que, c'est pas tant populiste.
Mettons-nous en garde. Je pense que ça prend des glissières sur la route, là.
OK. Mais je pense qu'on est un petit peu tanné. Je pense que c'est normal d'être un peu tanné. Oui. Puis on parle pour certains qui le sont peut-être plus que nous. Stéphane, bonne journée.
Bonne journée à toi.
Salut.